Chapitre 7 Le couteau et le piano. Pressée de fuir la maison du cauchemar, Rosine décida qu'on regagnerait dès le lendemain l'appartement de la rue Guinemer. Monsieur de Crochant lui ayant promis de rester jusqu'au soir près de Stéphane, elle se rendit sur l'heure à Paris afin d'y préparer la mise en scène du retour. Elle la voulait charmante et familière. Il fallait que le home accueillît Stéphane sous le double aspect d'un décor de fête et d'un intérieur que l'on n'a point cessé d'habiter. Rosine s'y employa fervemment, avec le secours de ses domestiques, à grand renfort de roses et d'œillets, de boules de neige et de mimosas. Ces sortes d'occupations favorisent singulièrement le libre cours de la pensée. L'exercice du corps, l'œuvre machinale des doigts et jusqu'à l'activité superficielle de l'entendement permettent à la réflexion de fonctionner au mieux dans les profondeurs de l'intelligence. Sans cesser d'aller et de venir, de marier le vase à la fleur en union assortie et d'ordonner avec art les désordres les plus beaux, Rosine mène une enquête mentale sur les causes et circonstances du cauchemar prodigieux. Qu'elle n'ait aucun doute sur sa réalité, qu'elle soit certaine d'avoir vu de ses yeux le rêve extériorisé de son mari, cela c'est un point acquis sur lequel Madame Orlac n'a même pas l'idée de revenir. Mais le rêve lui-même, les images dont il était formé, voilà ce qui la préoccupe. Passe pour le piano. Étant donné la grande terreur de l'avenir qui domine le virtuose, l'apparition d'un piano dans l'un de ses rêves n'a rien que de rationnel. Même constatation relativement à la physionomie désespérée de son double quand celui-ci s'est assis devant l'instrument. Mais les couteaux, le couteau marqué d'un X, le crime commis, le châtiment... Ces quatre concepts n'ont aucun rapport apparent avec le concept piano. Mais entre eux, ils semblent unis par les liens d'une causalité aussi serrée qu'on peut le désirer. Malgré l'opinion de M. de Crochant, Stéphane, pour la majeure partie de son rêve, a donc fait preuve d'un esprit de suite indubitable. Alors pourquoi nier que cette logique ait présidé au rêve tout entier ? Pourquoi cette logique n'enchaînerait-elle pas le concept piano aux autres concepts par une association d'idées que Rosie ne peut soupçonner mais dont Stéphane posséderait la clé? Il est devenu si taciturne, si renfermé depuis la catastrophe. Oh, il vaudrait mieux dire depuis le voyage à Nice, ce serait plus exact. Mais Rosine connaît parfaitement tous les faits et gestes de Stéphane au cours de ce bref déplacement. Le virtuose est arrivé à Nice le jour même du concert, et il en est reparti le lendemain matin. Il n'a donc passé là-bas que quelques heures, dont Rosine sait l'emploi par une lettre enthousiaste de Lucie Mauroy. Les Mauroy sont de bons amis. Ils habitent Nice en hiver. C'est chez eux que Stéphane a reçu l'hospitalité. On ne l'a pas quitté, il était plein d'entrain. Et Madame Mauroy, aussitôt la catastrophe connue, et pour s'enquérir de l'arrivée de Stéphane, s'est empressée d'écrire à Rosine. Elle a dit quel triomphe leur ami avait remporté en exécutant magistralement la fantaisie hongroise de Liszt pour piano et orchestre. Sa lettre ne mentionnait rien d'anormal. Le jeune ménage avait tenu compagnie à son hôte jusqu'au départ du train. D'autre part, depuis l'arrivée tragique de ce même train à Montgeron, Rosine ne s'est séparée de son mari que pour le remettre aux mains honnêtes de Serral. Conclusion. Si Stéphane a fait quelques mauvaises rencontres, cette rencontre s'est produite dans le trajet de Nice à Montgeron. Et si ce trajet n'a comporté aucun fait nouveau, ce que le pianiste dissimulerait, c'est donc que sa terrible blessure a causé tout le mal. Et dans cette hypothèse, le cauchemar n'est dû qu'au détraquement de ses facultés. Et ici se dresse la silhouette cadavérique de Spectrophélès. L'homme blanc, selon toute probabilité, fut le compagnon de route de Stéphane. Mais lui a-t-il parlé? Que lui a-t-il fait? Que se sont-ils dit? Des deux voyageurs, un seul a survécu, et celui-là se tait. Il est interdit de le questionner. Ne pas le contrarier, lui faire l'existence douce et facile, telle est la recommandation impérative du docteur. Aucune aurore ne se lève sur tant d'obscurité. Cependant, Rosine travaille encore son énigme. Le cauchemar de la nuit dernière n'est pas le premier qui ait bouleversé le malade au point de lui arracher des plaintes. Mais les autres fois, Rosine s'est bornée à frapper la cloison, ou bien elle s'est levée en tumulte, et elle a trouvé Stéphane réveillé par le bruit, débarrassé du songe en même temps que du sommeil. Avec plus de perspicacité, elle aurait peut-être appris bien des choses. Qui pourrait dire en effet que les cauchemars antérieurs fussent d'une autre nature que le dernier? En dépit de sa curiosité, Rosine espère de tout cœur que la suite des événements ne lui donnera pas l'occasion de le vérifier. Revenu chez lui comme un portrait qui retrouve son cadre, Stéphane, au lieu de dire de tous, devra subir une métamorphose des plus heureuses. Voici des boules de neige dans la flûte de cristal qu'il aime avoir parer le coin de sa table. Sur le fond violet du grand abat-jour, une branche de mimosa granule un safran qui flattera sa vue. Mettons pour le cher époux le cendrier de Salsuma près des cigarettes Richmond. Faisons grésiller dans le brûle-parfum javanais la mixture de gomme et de bois qu'il préfère. Tout est prêt. La demeure est exquise. On aperçoit par les fenêtres le jardin du Luxembourg qui se revêt de tendres feuillages. Stéphane peut venir. Maintenant, à la grâce de Dieu. Il est inutile de fatiguer le lecteur en le véhiculant du Luxembourg à Neuilly à la suite de Madame Orlac, puis 16 heures plus tard de Neuilly au Luxembourg en compagnie du couple si intéressant qui fait l'objet de ce récit. Au risque de détraquer la pendule du temps à lui faire tourner 16 heures en 16 secondes, mieux vaut, me semble-t-il, les attendre ici même où il est captivant de voir rentrer Stéphane. Le voici. Félix, au volant de la limousine, stoppe au ras du trottoir. Rosine descend la première. Quoiqu'elle l'ait veillée toute la nuit, elle rayonne, car Stéphane a reposé comme un enfant. Les concierges, émerveillés, leur font escorte jusqu'à l'ascenseur. Une fois n'est pas coutume. On ne peut nier que le convalescent ne soit rasséréné et qu'une expression de bonheur n'éclaire sa face pâle, tandis qu'il cadence le branle de ses béquilles. Deux étages, les murs clairs s'enfoncent verticalement. La montée s'arrête dans un choc élastique, on sort. Et c'est maintenant qu'il nous faut ouvrir les yeux et prêter l'oreille. Pendant que Rosine appuie sur le bouton du renvoi, une exclamation de Stéphane, sourde, retenue, la fait tressaillir. Que voit-elle? Ceci qui la terrorise à son tour. Là, dans la porte, au plein milieu du panneau crème, un couteau à virole est planté. Planté profondément. Ce qu'on voit de la lame est couvert de sang. Un filet rouge s'écoule de là comme d'une blessure, pourpre éclatante sur l'ivoire du vernis, et, détail minuscule, événement formidable, le manche du couteau est incrusté d'un X. Sidéré par un effroi sans nom, Stéphane a le visage d'un enseveli et Rosine défaille. Des paupières mystérieuses qui ne se sont pas les siennes s'abaisse sur ses yeux, ou bien est-ce la nuit qui vient tout à coup comme un nuage? Tout s'assombrit pour elle. Seul le panneau découpe un rectangle aveuglant. Et, surgi de la manière opaque ainsi qu'un plongeur remonte à la surface de l'eau, voici qu'un homme d'ombre s'émerge de cet aveuglement, cerné d'un galon fulgurant, redressé de toute sa hauteur, les bras en croix comme un gardien inexorable. Le couteau lui perce le cœur. D'un effort nerveux, plus pénible qu'un rétablissement musculaire exécuté au bord d'un gouffre, Rosine se surmonte. Il n'est que temps, quelqu'un s'approche à l'intérieur du logis. L'autre battant s'ouvre tout large sur le valet de chambre. Les spectrophélès se dissipent aussitôt. Alexandre, le valet qui a attendu l'ascenseur, est venu de lui-même où son service l'appelle. Sa maîtresse s'avance. Il ne faut pas qu'il aperçoive le couteau. Stéphane a compris. Pendant que Rosine barre le passage et masque la vue, il saisit l'arme, l'arrache et la dérobe dans la poche de sa pelisse. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Une espèce de complicité enchaîne maintenant Rosine à son mari. Mais va-t-il enfin s'expliquer ? Il se tait toujours. Ô fleurs, parfums, bibelots, arrangements qui sont des bienvenus, drapages qui sont des prévenances, harmonie préparée qui n'est qu'un doux accueil. Or, ne vous remarque guère, on ne sait même plus que l'on est chez soi. Rosine n'ose pas interroger Stephen. Elle l'a poussé dans le fumoir. Il a pris machinalement une cigarette et fume avec précipitation. « Oh, ta pelisse, veux-tu ? Bon, le temps, on gèle ici. » Il fume, il est agacé. Oh, mieux vaut le laisser seul un moment. Aussi bien, il y a quelque chose à faire sans tarder. Un aveugle n'entendrait rien. Elle s'engage dans l'antichambre, caoutchoutant ses pas, feutrant sa pauvre petite entreprise. D'une seule friction de serviette mouillée, le filet de sang a disparu d'un panneau crème. Il ne reste plus pour commémorer le macabre incident que cette fente peu visible. Une boulette de mastic la boucherait. Mais à quoi bon ? Personne ne se doutera qu'elle a été faite par un couteau sanglant marqué d'un X. Personne n'a vu le couteau. Le concierge aurait été prévenu. Du reste, le sang était encore liquide. Cela prouve que la porte a été offensée très peu de temps avant l'arrivée des Orlacs. Le malfaiteur, son coup préparé et perpétré, a dû se cacher aux étages supérieurs et redescendre plus tôt. Rosine, en regardant brûler la serviette sanglante, réfléchissait. Donc, à présent, Spectrophélès se remettait de la partie. Une fois de plus, après une longue éclipse, le mort de Mongeron était intervenu dans la vie de Stephen. Un tumulte assez indescriptible tourbillonnait sous le front de la penseuse. Mais comme on sait, elle n'était point femme, hein, se laissait prendre sans verre. Un crime ? Un crime dans la maison ? C'était possible. Elle n'y croyait pas cependant. Elle croyait plutôt à un signe, à un avertissement, un présage artificiel. Le caractère diabolique de l'aventure la frappait. De deux choses l'une. Ou bien le couteau avait été enfoncé dans la porte par quelque apache imbu de sous-littérature, ou bien Spectrophélès était mieux qu'un fantôme impuissant, mieux qu'un épouvantail brandi dans notre monde par une main souterraine. Et il fallait convenir que l'apparition de ce mort, faisant coïncider sa poitrine avec le couteau, ne laissait pas d'être troublante. D'ailleurs, ce couteau à virole marqué d'un X, ce couteau identique à celui du cauchemar, ne révélait-il pas deux corrélations mystérieuses et additionnelles, l'une entre le cauchemar et la réalité, l'autre entre Stéphane et Spectrophélès ? Un crime dans la maison? Improbable. On verrait bien. En attendant, la prudence la plus élémentaire voulait que le silence fût gardé, au moins jusqu'au soir. Stephen, donne-moi donc ta pelisse. Voilà, dit-il. Oh, je commence à me réchauffer. Pas plus de sang sur ses mains que sur celles d'Aristide. Il avait déjà fait disparaître toute trace de l'épisode. Rosine elle-même emporte la pelisse. Elle fouille les poches. Pas de couteau. Quand elle revint dans le fumoir, Stephen ne s'y trouvait plus. Elle le suivit à distance, espérant, à cause du piano, qu'il traverserait le salon sans s'arrêter. Il s'arrêta, étayé de ses béquilles. Elle l'observa derrière un rideau de toile d'or, souhaitant passionnément qu'il se contentât de regarder le coquet demi-deuil de la décoration, les palmes mémoratives et les nœuds de ruban où ses yeux tristes semblaient lire des regrets éternels et des requiescat in pace, le plat à nœuds noirs et le long comme un catafalque. Il s'approcha du silencieux cercueil qui contenait en puissance la musique tout entière. Il en caressa, comme la robe d'un pur sang, bébrin, la laque lustrée. Rosine se retint de paraître, de l'entraîner. Hélas, aujourd'hui ou demain, l'heure du piano sonnerait fatalement. Mais voilà que Stephen soulevait le couvercle du cavier. Pourquoi frémir derrière le rideau d'or? Pourquoi follement se demander ce qu'il avait sous le couvercle? Dieu merci, c'était bel et bien des touches ordinaires. Et Stephen a dit tout bas, « Il faudrait une rallonge. » C'est sa jambe droite qui n'atteint plus la pédale. Seigneur, Stephen assis au piano. Lui qu'elle a pensé perdre à jamais, Stephen au piano. Ah, il n'est vraiment lui-même qu'à cette place, ajusté à l'objet merveilleux, comme une pièce humaine habilement conçue. Ses traits ont la dureté d'un mascaron d'albâtre. Il a posé les mains sur les touches. D'un seul doigt timide, il épelle la phrase typique de cette fantaisie de Liszt, la dernière chose qu'il a exécutée. Comme un dessin linéaire évoque les couleurs et toute la magie d'un tableau bien connu et qu'il indique, le motif en droit fait songer à toute la féerie de tout ce chef-d'œuvre. Les notes, qui s'espacent craintivement, éveillent la harpe clandestine que le piano recèle. Des harmoniques chantent au lointain sonore, comme des zéphyrs au fond d'un bois sacré. Ils contiennent la foison du poème musical. Un accord changeant s'y joue, telle une écharpe dans la brise. Il s'enroule en sourdine autour du thème conducteur, ainsi qu'une guirlande autour d'un tierce. La fantaisie est là. Elle s'est avancée derrière le silence, prête à bondir, à tournoyer, dansante et magnifique, folle et divine. Stéphane la sent à fleur de chair, qui veut s'échapper de ses mains. Rosine l'entend déjà. Les mains d'Orlac s'élancent. Il n'y a plus là de pianiste illuminé qui se dispose à attaquer brillamment la fantaisie hongroise de Liszt pour piano et orchestre. Il n'y a plus qu'un homme qui pleure dans les bras d'une femme douloureuse. Le silence est terrible. Quelque part, une verrerie se brise. Stephen a refermé le piano comme une bière sur un cadavre bien-aimé. Un crime dans la maison? Le lendemain matin, Rosine s'enquit de ce qu'elle voulait savoir. Tous les locataires de l'immeuble étaient présents à Paris. Aucun d'entre eux ne s'était plaint de quoi que ce fût. Les concierges, adroitement sollicités, ne montrèrent pas qu'ils eussent remarqué la veille, au passage, un ou plusieurs individus suspects. Restait donc à étudier, dans l'ordre du possible, les familiers de la maison et en premier lieu les domestiques des Orlacs. Rosine était sûre d'eux. Alexandre, ancien brosseur de Stephen, et Esther, sa femme, étaient les types du valet fidèle et de la soubrette dévouée. Cécile, la surabondante cuisinière, n'aurait point trahi davantage. Non qu'elle prouvât à ses maîtres un attachement inaltérable, mais sa corpulence et la douceur de ses mœurs eussent ridiculisé toute accusation d'exploit machiavélique. Innocent à coup sûr, il fallait pourtant que les trois serviteurs subissent un interrogatoire. Peut-être de leur dire sortirait quelque enseignement. Rosine, après avoir mûri son système d'investigation qui était rudimentaire, les fit comparaître tous trois en même temps. Cécile essuyait avec son tablier bleu ses pattes boudinées et sentait le poisson comme une grosse sirène, car ceci se passait un vendredi. Elle était majestueuse, écarlate et luisante. Magdebourg, ainsi l'appelait M. de Crochon, à cause, disait-il, de ses hémisphères. Et cela faisait rire inconsidérément la vaste fille, à l'image d'une charcuterie ambulante dont la marchandise tremblote et sursaute au chaos du pavé. À côté d'elle, Alexandre et Esther semblaient deux demi-créatures, tels deux poids d'une livre à côté d'un kilo. Rosine assura sa voix et leur dit « Un fou malfaisant a planté un poignard, ou je ne sais quelle lame, dans la porte d'entrée, si j'en juge par la fente que j'ai remarquée, et qui ne s'y trouvait pas avant-hier. » Mais ni l'un ni l'autre n'avait rien entendu, rien aperçu. Nul rôdeur, nul quémandeur. Personne ne s'était présenté entre le départ de madame et le retour de monsieur et madame. Un coup violent, non, madame. Et pourtant l'orifice n'est pas loin de l'entrée. Mais, dit Alexandre, on a bien pu abîmer la porte en y enfonçant doucement l'outil, en pesant dessus, et ça aurait pas fait de bruit. Rosine recueillit par-dessus le marché quelques opinions tendancieuses sur l'avocat d'en dessus et l'industriel d'en dessous. Enfin, elle sut que les gens de maison au service des autres locataires étaient des personnes tout ce qu'il y a de mieux. Alexandre, Esther et Cécile ne pouvaient fournir d'autres renseignements. C'était maigre. Rosine s'étonna piteusement de ne pouvoir remonter du couteau sanglant jusqu'à la main de son possesseur. Par une suite de ses déductions ou de ses inductions rigoureuses, familières aux détectives du livre ou de l'écran. Non, tout s'éparpillait, tout se cachait. Elle ne parvenait pas à rétrécir le cercle de ses recherches, qui jusqu'à présent englobait l'immense univers. Et pourtant, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire. Pas de ténèbres qu'elle n'eût sondées depuis la catastrophe. Ainsi, ce mort qu'elle appelait Spectrophélès, de quoi était-il mort au juste? Le tamponnement n'avait-il tué qu'un cadavre? Eh bien, ce mort, ce n'était vraiment pas la faute de Rosine si elle ignorait encore son identité. Elle s'était procuré la liste officielle et complète des victimes de la catastrophe, et petit à petit, elle arrivait à connaître chaque défunt, son aide, sa profession, son passé. Elle y arrivait toute seule, se refusant à recourir aux offices d'espionnage privé. Mais ces morts, il y en avait 73. La tâche était longue, et Stéphane absorbait la plus grande part de son attention. Ah, si seulement celui-là, oh non, non, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, un doux, un inoffensif, lui versait le sang, jamais. Si seulement celui-là se montrait plus expansif, s'il était permis de l'interroger, si monsieur de Crochon, par ailleurs, n'était pas si excentrique et si narquois. Rosine penchait au découragement. Elle fit néanmoins le bilan de sa situation. Mais l'actif de son savoir équivalait à zéro. Alors elle s'aperçut, en frissonnant, qu'elle n'avait tenu registre du compte possible, et que pendant ces temps, le compte impossible s'était enrichi d'un capital si imposant au préjudice de l'autre que celui-ci se trouvait gravement déficitaire.